Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3,
c'est fac.
Ça part ici.
Cet épisode est commandité par Hatch, fier partenaire de la Chaire pour les femmes en sciences et en génie. Hatch est une firme de génie conseil dans les secteurs des mines, de l'énergie et des infrastructures. Depuis plus de 60 ans, Hatch apporte à ses clients son expérience technique et commerciale pour concevoir des solutions plus ingénieuses, efficaces et novatrices. Grâce à son implication en matière d'équité, de diversité et d'inclusion, Hatch a été reconnu 3 années de suite comme un employeur de premier plan en matière de diversité et d'inclusion et figure au palmarès des 100 meilleurs employeurs au Canada. Merci à Hatch pour son précieux soutien. Bienvenue dans la deuxième saison de Communiquer au féminin, un balado par la Chaire pour les femmes en sciences et en génie et animé par Léa Museau et Joëlle Pelletier-Nollet.
Au travers des épisodes, on vous amène à découvrir des parcours, des projets, des succès en sciences et en génie qui vous sont communiqués au féminin. Anna Beaulieu et Nicole Glaze sont toutes deux participantes au programme Jumelage au féminin des sciences autochtones et occidentales, ou JFSAO. Ce programme de mentorat vise à financer un projet de recherche de plusieurs mois qui s'inscrit dans le mandat de Ressources naturelles Canada et qui répond à un besoin d'une communauté autochtone. Il vise à offrir des occasions aux étudiantes sous-représentées en STEAM en jumelant des étudiantes autochtones et allochtones. Anna est étudiante au baccalauréat en histoire et sciences politiques à l'Université Dalhousie.
Nicole est étudiante à la maîtrise en environnement et gestion à l'Université Royal Road.
Toutes deux ont été jumelées pour travailler dans la communauté de la Première Nation Eskasoni de l'île du Cap-Breton. Avant d'entendre Anna et Nicole, nous vous partageons une présentation du projet par Tom Johnson, le directeur exécutif de Eskasoni Fish and Wildlife Commission. Nous sommes très reconnaissantes d'avoir accès à cette introduction en langue Mi'kmaq.
Quoi? Nina Deluisi, Tom Johnson, Léwi, Deluisi, Udan, Eskasoni. Esisoni na sahede karu bukulkina bejuksul timmi gulnug 1946 de luisi gub tahwai centralization na bukulkik skujinu kisisul timmi ah bukul kumuj atahasi gub kisokhe kalmu gejidwe gub tandesik na ebi chiz waltaskagatab de luisi Nicole Glaze giz nenagatab ankus kru dogolugudia gatab nargoi karu Mugistlas nu, kalau gelap es kisah mau tes kalul tiek, ah kisah mau logo tiek, ah kisah angkat temi di dek, nengi muk tak hui magami go ikutuk, edek, ah tak hui teru id temi di tak hui EDNA, angkat temi di stanchu EDNA, kejiru di tak hui egwich samwan ikutuk, di tu angkat temi di tak hui teru id temi di lo core sample. Mukhodijik, mami gue itu kelakadu di siwakat miri dah sisku. Aku ay bidek, aku jadi di tahu ay bidek sebmek. Aku tan delsa. Nasa aku tu si itu, aku ay dalamu ulai mudik. Nih ejek sedu ane, gigi mana awas kuat miri, tan tahu ay kisadu dish.
Bonjour Nicole.
Allô Anna.
Merci d'être là avec nous aujourd'hui.
Allô, merci de m'avoir.
Bonjour, ça fait vraiment plaisir. On a un petit peu fait vos présentations juste avant. Est-ce que vous pouvez nous décrire le programme de jumelage dont vous avez fait partie?
Oui, ça s'appelle CNEWS, qui est en anglais, ça dit Sistering Indigenous and Western Science.
Donc, le programme de CNEWS, c'est un programme de mentorat pour aider avec la représentation et la participation des femmes autochtones et non autochtones dans le cadre des recherches et des disciplines relatives aux sciences. Donc, pendant le programme, on a des paires d'étudiants qui s'identifient comme féminins et ils proposeront, élaboreront et mettront en œuvre des projets de recherche au cours de 4 à 8 mois à peu près. Et c'est un contrat d'emploi où le département de ressources naturelles donne des fonds pour être capable d'avoir un projet en partenariat avec une communauté autochtone.
Ben merci pour cette présentation.
Qu'est-ce qui vous a amené à rejoindre ce programme, justement?
Donc, vraiment, j'étais amenée à hasard. Je ne suis pas scientiste dans un sens traditionnel, mais dans notre cohorte de notre année, Nicole et moi étaient une des deux équipes qui ont été jumelées sans connaître l'un et l'autre. Mais c'était vraiment après ma première entrevue avec les coordonnatrices du programme, j'ai commencé à m'intéresser, car c'était complètement différent que tous les autres programmes du gouvernement que j'étais déjà présentée avec ou même mis ma candidature. Mais c'était après la conversation initiale avec Jamie et Alicia que je voulais vraiment être partie du projet. Et une fois que j'avais rencontré Nicole, j'étais encore plus déterminée à me joindre et j'ai senti que nous avons eu la chance de faire une différence dans cette communauté.
J'ai vu la publicité dans un bulletin scolaire de mon université Royal Roads. Je l'ai vu un peu aux dernières minutes, mais ça fait comme un bout de temps. Je voulais d'abord travailler avec Esquissoni Fish and Wildlife Commission. C'est leur organisation environnementale à Esquissoni, à l'île de Capraton, Nouvelle-Écosse, où j'ai grandi. Donc, je voulais travailler avec eux depuis longtemps parce que leur programme de sciences environnementales est vraiment fort. Et puis, je me sentais que je pouvais beaucoup apprendre sur les écosystèmes de eux. Et puis, j'ai grandi pas loin de là-bas, donc je me sentais proche déjà de la Terre. Et puis, les connaissances écologiques des Mi'kmaq, je me sentais proche déjà à eux. Ils faisaient toujours une présence dans ma vie. Et puis, l'importance aussi pour protéger la région, pour les générations futures, ça m'a attirée. Donc, c'était important pour moi parce que j'ai deux enfants et je veux qu'ils soient proches au monde naturel qui les entoure comme je l'étais. J'ai toujours aimé l'idée d'interconnecter les sciences autochtones et occidentales et j'ai eu une idée d'un projet. Donc, j'étais vraiment inspirée par tous ces éléments. Aussi, j'aimais aussi que le programme donnait beaucoup de liberté pour développer le projet dans le contexte de mes idées et priorités et puis aussi de les méthodes de la communauté sans les contraintes habituelles.
Tu dis que tu as toujours eu un contact un peu avec la communauté Mi'kmaq à l'île du Cap-Breton. C'est quoi le premier souvenir que tu as comme contact avec cette communauté-là?
Ça, c'est vraiment une bonne question. Donc, je vais vous dire, ça touche un peu à mon cœur. Parce que, en fait, mes parents étaient des immigrants. Ils venaient des États-Unis. Ils venaient des grandes villes, surtout mon père venait d'un voisinage un peu comme difficile et violent aux États-Unis. Puis, il y avait toute la guerre du Vietnam. Il jouait un rôle. Après qu'il a fait son mandat au Vietnam, il était vraiment déçu par les États-Unis. Donc, on était des immigrants. Et quand j'ai commencé l'école, notre famille n'était pas, comment dirais-je, enfin, il y avait des enfants ou des autres étudiants qui n'aimaient pas qu'on soit, il n'y avait pas beaucoup de familles, en fait, il n'y avait pas d'autres familles immigrantes. Donc, on était comme les premières, presque, qui restaient pour l'école et tout ça. Et puis, une amie qui était immigrant, elle a vu comment j'ai souffert et puis elle m'a accueillie comme ça. Donc, après ça, mon père a travaillé pour la communauté et c'était comme une communauté qui m'a toujours accueillie quand la reste de place était difficile à trouver comme une belonging, excusez-moi pour l'anglais, un sens de communauté. Je me sentais comme
un sentiment d'appartenance avec cette communauté.
Dès que j'ai fini l'école secondaire, j'ai retourné aux États-Unis et je m'ai écartée. En fait, j'ai retourné aux grandes villes où il y avait beaucoup de problèmes, violence et j'ai enseigné dedans. Et c'était juste comme, je dirais, après la naissance de mes enfants, les dernières 10 années, que je commence à me sentir plus attirée par la terrain en Nouvelle-Écosse et ce que je continue à apprendre avec la communauté Mi'kmaq, ça fait une grande partie de l'attirance et la paix intérieure et la connaissance de soi et l'harmonie de vivre avec l'environnement.
Ah, j'en ai des frissons, c'est un beau témoignage. Merci de l'avoir partagé avec nous.
J'imagine que faire partie de ce programme-là, c'est aussi un peu comme un retour aux sources pour toi.
Oui, j'ai pas eu ces expectations, que c'est pas ça que j'attendais. Je voulais longtemps parce que j'ai voulu travailler avec eux longtemps. J'ai quitté la Nouvelle-Écosse depuis maintenant, ça fait plus que 20 ans. J'ai ces connexions, mais il y avait une longue période de temps que je n'étais pas présent. Donc, j'essaie d'être plus présent. J'espère vraiment que ça va continuer.
Sur quoi portait votre projet avec Anna?
Le projet était une évaluation des effets cumulatifs dont j'avais entendu parler dans un cours sur les outils d'évaluation environnementale. J'étais intéressée par cet outil car il a été utilisé pour faire valoir les droits des autochtones, contrairement à d'autres méthodes d'études scientifiques. Il encourage l'examen d'interconnexion entre les paramètres. Donc, je pense vraiment, pour moi, la compréhension des écosystèmes se trouve dans un réseau d'interconnexion dynamique. Donc, j'aime sortir du laboratoire d'isolation des paramètres. J'ai une valeur pour ça, c'est important. Mais j'aime l'idée de s'en sortir de là et examiner les interconnexions dynamiques. Et c'est un des outils d'évaluation environnementale que je n'ai pas vu dans les autres outils.
Le projet, dans le fond, c'était d'analyser les impacts à long terme des activités forestières sur la biodiversité dans la région de Esquizoni. Nous avons fait plein de tests comme des échantillages de l'eau, des sols et des tests d'ADN environnemental. Donc, l'objectif final de la communauté était de créer une zone réservée pour la conservation.
Et le thème était comparer les zones qui avaient été coupées à blanc aux zones qui ne l'avaient pas été. Les tests et les sites d'échantillonnage, est-ce que Sony nous a donné l'occasion de nous familiariser avec la Terre et d'une meilleure compréhension de la façon dont l'histoire de la Terre fait partie de son présent. Donc, est-ce que Sony m'a aidé à comprendre que le présent ne peut pas être compris sans une solide compréhension du passé? Et puis, nous avons eu un mentor géoscientifique des ressources naturelles Canada qui s'appelle Michael Parsons. Et puis, il nous a guidés tout le long de l'échantillonnage sur le terrain. Et il nous a montré comment prélever une carotte des sédiments dans le lac. Et puis, cela m'a inspiré à rechercher davantage sur les carottes des sédiments. Et j'ai vu comment elles peuvent nous donner des informations précieuses sur le paléoclimat et les environnements passés, et ainsi que sur les événements anthropiques passés qui ont influencé le processus terrestre. Et puis tous les tests ont été déterminés par la priorité de la communauté. Donc, c'est eux qui nous ont dit quels tests ils veulent. Et avec leur biologiste.
Donc, chaque élément de notre projet était entièrement guidé par la communauté et nous avons besoin de leur OK pour toute décision qu'on voulait faire, les tests, les mesures qu'on voulait utiliser et même notre budget qu'on a parlé avec la communauté. So, tout était guidé par Esquizoni Fish and Wildlife Commission, à qui on a travaillé vraiment proche. Et ce qui était choisi était genre priorisé en fonction de l'importance pour la communauté et aussi les impacts culturels. Donc, c'était vraiment intéressant la manière qu'on a fait nos recherches et qu'on a fait nos travaux.
Je pense que la plus importante pour moi était l'établissement d'une relation avec la communauté. Ça m'a beaucoup aidé à établir cette relation.
Dans le fond, vous allez chercher des carottes dans le sol, puis vous analysez les différentes strates.
Donc, les effets cumulatifs, c'est pas mal nouveau comme une... pour l'environnement. C'est une façon de voir les impacts qu'un projet peut avoir sur l'environnement. Mais il prend sur le temps et l'espace plusieurs données différentes. Donc, dont une était la carotte, mais aussi on a pris des échantillons de l'eau pour voir la contamination. Est-ce que la contamination de l'eau qui est proche à le coupage était plus contaminé que l'eau qui était proche à l'air qui n'a jamais été coupée. On a pris les tests de ADN pour voir si la biodiversité était différente. Et puis, le carotte était à la fin. Ça, c'était juste pour voir quels autres effets peuvent se produire en comparaison de l'air de... où il y avait le coupe et l'air où il n'y avait pas de coupe. Mais le carotte soi-même, il y a une énorme quantité d'informations qu'on peut retirer là-dedans. Donc, je vais vous donner juste quelques-unes qui étaient vraiment intéressantes pour moi. Comme on était en train d'examiner le coupe à blanc, ce qu'on a trouvé dans la carotte, d'enfant, quand vous enlevez les carottes, c'est comme une grande tube. Et notre carotte était comme, il nous disait comme 120 ans. On peut aller comme 120 ans dans l'histoire. Et ce qu'on a vu dedans, c'est comme deux événements de haute énergie. Donc, ça peut être une inondation, ça peut être une tempête. Et puis, ce qui se passe avec un événement de haute énergie, c'est que les sédiments sont portés par la rivière jusqu'à la carotte et puis tout ce qui vient avec. Donc, on a vu comme une matière organique et j'ai investigué, tous les scientifiques qui étaient dans le réseau, j'ai fait des emails et puis essayé de voir c'est quoi cette matière organique. Et ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas déterminé à 100%, on est toujours en processus, mais la plupart des experts ont dit qu'on va chercher pour voir si c'était un coupe à blanc.
Pouvez-vous justement m'en parler plus là, de en quoi vos recherches ont été bénéfiques à la communauté Escassonie?
En tant qu'historien, je suis vraiment intéressée par les événements qui ont vraiment mené aux préoccupations de la communauté, les conversations qu'on a maintenant à l'époque actuelle. Donc, une des affaires qui ont vraiment guidé les fonctions dont on a fait nos tests, c'est dans les années 1940, le gouvernement du Canada a introduit une politique de centralisation. C'était vraiment mis en focus les provinces atlantiques où les Premières Nations de la Nouvelle-Écosse ont été relocalisées dans deux communautés, soit un sur l'île du Cap-Breton et l'autre sur on the mainland. Il n'y avait pas vraiment beaucoup de services à leur disposition. Donc, avant la politique était mise en place, il y avait des promesses d'avoir des maisons, l'éducation pour faire de l'agriculture et juste tout possible pour créer une communauté qui pourrait aider soi-même. Et l'une des principales théories que la communauté a présentées dans nos conversations initiales, c'est de trouver comment on peut regarder les impacts au long terme de ce politique qui a été imposé sur la communauté et comment finalement ça a affecté les cours d'eau, les habitats critiques dans les forêts et même où la communauté existe actuellement. Et avec ces histoires, on a pu créer des liens avec non seulement cette période, mais regarder comment la communauté est présentement. La politique de centralisation elle-même était une partie vraiment petite du projet. Mais c'était vraiment important à moi, non seulement en tant qu'historien, mais aussi pour la communauté, à commencer à créer des liens entre l'histoire de la communauté versus qu'est-ce qui arrive dans le monde maintenant et comment ça traduit dans des données quantifiables que les sciences occidentales demandent. Si on retourne à cette idée de comment nos découvertes sont liées aux communautés elles-mêmes, c'est vraiment notre projet est guidé par la communauté dans ce sens-là, à commencer à créer des relations avec les personnes qu'on travaille avec, les membres du communauté elles-mêmes et même comment on fait la recherche elle-même. C'était toujours le point de contact en premier, c'était toujours est-ce que j'en ai Fish and Wildlife? Et c'était toujours une conversation kind of back and forth jusqu'à temps qu'on a un consensus de comment continuer nos travaux.
Il y avait dans l'histoire orale un coupable blanc qui était dans cette aire protégée près de Esquissoni pour centralisation. Ils ont mis plusieurs personnes autochtones dans cette région sans les demander. Et puis, ils ont coupé le forêt pour dire qu'il y aura des maisons, mais ils n'ont rien construit. Si on pouvait, et on n'avait pas la capacité de prouver ça au niveau scientifique, mais une des choses que je voulais faire, c'est que si on pouvait voir la date de cet événement de haute énergie, ça va nous donner la date que, à peu près, la date que cette matière organique est arrivée dans la carotte. Et puis, on peut essayer avec aussi les cartes de météo historique, on peut essayer de voir si cette matière organique peut correspondre à une coupe à blanc dans la même année. Et puis aussi, une autre chose qu'on pourrait faire, c'est de voir les fibres dans cette matière organique. On a pris des échantillons de carottes soi-même, voir les fibres et essayer de voir si la composition des espèces, parce que des fois, tu peux voir quelle espèce de larve si tu examines les fibres. Si la composition des espèces correspond à la composition des espèces de forêt actuelle maintenant. Donc ça, c'est une autre place. C'est comme un peu comme une investigation. Et c'est ça que j'aime de la science. C'est comme, il faut poser les questions. Et les questions, la plupart du temps, ils n'ont pas la réponse que tu cherches. Ils ont juste plusieurs questions. Donc c'est tout un processus de suivre la curiosité et questionnement pour essayer de trouver les idées.
Mais oui, c'est intéressant de voir qu'avec la science, tu peux retracer des événements historiques puis des événements qui ont touché les communautés autochtones et qui sont importants de rapporter aujourd'hui. Comment vos résultats permettent à la communauté d'avoir une aire protégée?
Je pense pas que c'est nos résultats qui permettent à la communauté d'avoir un air protégé. Ce qui est important, je parle de mon expérience personnelle, mais selon mon compréhension, un air protégé autochtone est déclaré. La déclaration est faite. C'est à chaque communauté de voir et négocier leur méthode de le protéger. Ils ont le droit de le déclarer, c'est protégé selon, et des fois c'est comme en Nouvelle-Écosse, ils ont décidé de faire la protection en coopération avec le gouvernement, c'est comme un co-management. Et d'autres, ils ont d'autres façons de le faire, mais chacune est unique. Mais ce qui est important, je pense, de comprendre, c'est qu'une fois que c'est déclaré, c'est fait, c'est déclaré et puis ça va suivre le voie autochtone, comment on peut le protéger. Dans leur méthode, dans leur travail de protection, il nous a dit que voici les tests et les échantillons qui peuvent nous aider à faire comme une collecte des données. Donc, je pense que c'est comme ça qu'on a contribué. Ils avaient déjà fait des tests ADN plutôt dans l'air marin, parce que en bas de rivière, il y a tout, c'est comme où la mer entre à l'intérieur de l'île, mais toutes les rivières, ils ils vont finalement à cette aire marine. Et ils avaient déjà fait les tests d'ADN dedans, mais jamais plus haut dans la terre. On a pris des échantillons de sol aussi. Et puis, on a vu beaucoup de choses. La plus grande différence qu'on a vue entre les coupes à blanc et les endroits qui n'avaient pas eu une coupe à blanc était en fait dans le sol. Mais le sol était vraiment différent. Il y a une énorme biodiversité que le sol nous offre. Et puis, il y a toute cette comme étoile d'araignée des champignons. Beaucoup à découvrir, mais ce qu'on sait, que le sol est très important et on a vu une grande différence, même avec nos yeux, même avant que ça ait allé à le laboratoire pour analyse, on a vu que le sol dans la coupe à blanc était différent que le sol qui n'a jamais été coupé.
Justement, Anna, tu as appris à faire des prélèvements et des échantillons avec l'aide de Nicole. Comme tu n'avais pas un parcours en sciences, qu'est-ce qui t'a fait sentir en confiance dans ce processus-là? Quels enseignements tu ressors de cette expérience?
Donc, vraiment, pour parler pour nous deux un petit peu, Nicole, c'est une scientifique dans le sens traditionnel. Nous avons tous les deux vécu quelque chose de complètement nouveau. Les tests de l'environnement, c'était relativement nouveau dans le monde scientifique. Donc, c'est une expérience d'apprentissage pour nous tous les deux. C'est de faire des recherches, de parler à des laboratoires, même parler à nos mentors à l'interne aux ressources naturelles. Et travailler au sein du gouvernement dans ce cas-ci, nous avons donné un réseau incroyable avec plein d'experts et des mentors jusqu'à nos mains qui nous avaient aidés à savoir plus sur les types de tests que non seulement on est intéressé dedans, mais aussi pour la communauté. Et aussi, les démarches qu'on doit faire pour atteindre nos objectifs. So, être guidé par des experts et nos mentors m'a vraiment personnellement aidé à renforcer non seulement ma confiance dans le travail que nous avons accompli, mais aussi à regarder à notre objectif final. C'est pas seulement de juste créer un rapport puis donner 45 pages aux communautés de ça, c'est qu'est-ce qu'on a fait, mais aussi de, comme on a dit, de établir des bonnes données de base pour la communauté à continuer avec ses travaux et de regarder donc qu'est-ce qui est arrivé dans les 100 dernières années puis qu'est-ce qu'on va faire pour les 100 prochaines années. Je suis pas scientifique, mais I'm really grateful juste pour avoir l'occasion de travailler avec non seulement Nicole, mais nos mentors puis les experts dans le sujet qui ont le temps et l'espace. C'est pas comme entrer dans un espace privé où il y a beaucoup plus de questions sur le temps et l'argent et juste être capable de m'asseoir et parler avec quelqu'un pour juste to pick their brain. Être au sein du gouvernement, c'est tes collègues. Le monde qu'on a rencontré, il voulait vraiment nous aider. Et ça, c'est quelqu'un comme Michael Parsons qui travaille au Geological Survey of Canada. Il était notre mentor informel, I guess. On avait deux mentors qui étaient appointés à nous autres pour le projet, mais Mike était là du début au fin. Il a fait le fieldwork avec nous autres. À chaque deux semaines, on avait une rencontre avec lui. On avait 100 000 questions. Puis à chaque fois, il était là de juste tenir nos mains, de nous parler à travers de ce qu'on devait faire, comment on pourrait le faire, mettre nous autres en contact avec des labs, puis même juste le système de support que ce programme nous a offert était it exceeded my expectations.
Quelles compétences de vos domaines respectifs vous avez mis à profit dans ce programme?
Comme on se parle un petit peu du politique de centralisation, c'était quelque chose que j'ai déjà appris à l'école, mais j'ai jamais eu l'occasion de parler avec une communauté qui a été directement affectée. C'était vraiment une expérience intéressante de travailler à Mi'kma'ki. C'est pas ma communauté. On a eu des expériences similaires. Comme la plupart des communautés autochtones à travers du Canada, on a une relation intéressante avec le gouvernement, juste pour at the basis. Donc, c'était vraiment pas non seulement amener mes compétences que j'ai apprises à l'école, mais aussi mon propre histoire puis mes propres expériences. Et le programme elle-même te donne l'espace d'être toi-même et d'être humain. Le programme elle-même est basé dans cette idée qu'on est tous différents. Même juste la structure qui est créée de, d'avoir une paire autochtone et non autochtone, c'est vraiment intéressant. Au début, j'étais comme, OK, c'est un autre projet qui va pas vraiment faire quelque chose à long terme. C'est pas vraiment important, c'est pas vraiment en ligne avec ce que moi je voulais faire. Mais en même temps, le plus que j'ai parlé avec Nicole, on voit l'environnement du même façon. On voit le monde du même façon. Puis c'est quelque chose que j'aurais jamais pu penser à avant. Nicole, elle m'a aidée à ressortir des compétences que j'ai jamais pu penser à. Elle a aussi montré que pas toutes les sciences arrivent dans un laboratoire. Qu'on peut être dehors, on peut prendre le temps avec l'environnement. J'ai profité beaucoup par ce projet, juste pas dans un sens quantifiable, mais la manière dont je fais mes travaux et je regarde au monde, c'est définitivement changé. Juste le fait d'être accueilli à Skuzoni pour être invité et passer le temps sur leur terre, c'était vraiment un honneur dans ce sens-là.
Je pense que mon enfance m'a beaucoup aidée parce que mon père était technicien de forêt. Et puis quand on était jeune, il nous a emmenés au travail avec lui. Son travail était dans la forêt. Donc, on a fait la plantation des arbres, on a fait le bilan d'aménagement forestier. J'étais confortable d'être dans la forêt, de marcher dans la forêt. Donc, ça m'a beaucoup aidé, juste de lui suivre dans ses activités forestières. Puis, à l'université, j'ai développé des compétences de recherche. Surtout le premier cycle de la maîtrise, j'ai compris comment je dois chercher dans la littérature d'abord, avant et voir ce qui est déjà fait, les connaissances déjà acquises ou bien les questions déjà posées avant de développer ou de supporter le développement d'un projet de recherche comme ça. Et puis, la connaissance de l'évaluation des effets cumulatifs. J'ai développé ça dans le cours, mais c'est juste la première fois que j'ai entendu parler dans le cours. J'ai fait un petit projet de ça dans le cours au niveau théorique. Mais ce projet aussi, ça m'a permis de développer encore des compétences sur les effets cumulatifs. Et finalement, on a eu deux mentorats dans le gouvernement, qu'eux aussi travaillent les effets cumulatifs, donc il m'a beaucoup appris. Et puis aussi dans mon bac, j'ai eu beaucoup de temps dans le laboratoire. Donc quand j'étais en communauté, parce que il y avait un petit laboratoire à Skuzoni, mais ça c'était juste, on a fait le processus de nos échantillons là-bas, mais après ça, il fallait envoyé au laboratoire central. Donc, en communication avec eux, j'avais déjà une idée de ce qui se passe dedans. Donc, je pense que ça m'a aidé.
C'est ça qui est intéressant, je trouve, quand on travaille en recherche ou en sciences, c'est qu'on continue toujours, tu sais, on apprend pendant notre parcours scolaire, universitaire, mais après, selon nos projets, on continue toujours à développer nos compétences, à apprendre aussi sur différents sujets. Donc, je pense que pour les gens qui nous écoutent, les personnes qui ne savent pas quoi faire dans la vie, mais qui aiment apprendre les sciences, la recherche, c'est vraiment quelque chose qui peut être intéressant parce que tu apprends tout le temps, tu développes des compétences et tu les approfondis aussi. Donc, voilà, c'est vraiment intéressant.
Oui, c'est ça que j'adore du science. Il n'y a pas deux jours la même chose. J'adore quand je pose une question, et j'attends une réponse. Je reçois la plupart du temps juste une autre question. Et puis, ça te met dans une tête de curiosité. Et puis, ça donne un peu de piment à la vie d'être dans cette gamme. Et puis, toute la collaboration, parce qu'on ne peut pas tout connaître. Donc, il faut aussi chercher les experts qui ont eu beaucoup d'expérience dans ce domaine. Et j'adore toute cette façon de construire les relations et d'apprendre l'un l'autre et de partager nos apprentissages. Mm. Donc, c'est vraiment un bel domaine.
Tout à fait.
En plus, souvent, tu tombes sur un sujet qui te passionne pour lequel tu as de l'intérêt, comme toi, pour les effets cumulatifs, et tu connais pas grand-chose. Puis en mettant en pratique, après, c'est là que tu commences à plus développer ton expertise sur ce petit détail, finalement, qui t'a marqué dans ton cours.
Tout à fait.
C'était quoi l'implication de la communauté dans votre projet? Est-ce que vous avez reçu des conseils des aînés de la communauté et quel apprentissage vous avez, dans le fond, reçu?
La communauté était vraiment au cœur de tous nos travaux, puis c'était vraiment une façon rafraîchissante d'entreprendre un projet, et même le projet elle-même était vraiment ambitieux. Donc, naturellement, qu'on a commencé nos conversations avec Escusoni, il y avait un genre de période de test sur les deux bords, juste avec l'équipe de l'Escusoni Fish and Wildlife Commission. Au fur et à mesure, on a pu construire cette relation avec eux autres quand on faisait nos travaux. Donc, la période test était... Ah non, c'était vraiment awkward dans un sens, parce qu'on nous présente en tant que employés du gouvernement, une communauté autochtone. Et je pense que ça a fait notre période de test un peu plus difficile dans un sens. Mais la relation elle a pu être créée lentement et au fur et à mesure de notre projet. Et une des premières choses pour moi et Nicole, en tant que priorité, c'était de visiter la communauté puis faire cette relation face à face. Mais en juillet, la communauté avait un événement public, mais il y avait des événements pour des adultes puis des enfants, puis c'était une journée de fun dehors. Ils te donnaient des papiers, puis juste regarde pour cette espèce de fleur, ou ils voulaient trouver des abeilles, puis il y avait comme des jellyfish à côté du plage. Puis c'était la première fois que j'ai vu un jellyfish au Canada. Il y avait une conversation que j'ai eue avec Nicole. Elle m'a dit, like, the first time you get stung by a jellyfish, puis je la regarde, la première fois, tu me dis, multiple de fois que tu fais piquer par un jellyfish, like, I was completely mind blown, mais aussi comme horrifiée en même temps, like, c'était super cool de juste, non seulement créer cette relation entre moi puis Nicole, mais juste être à Escusoni, puis juste pour voir comme, ça c'est où on va faire nos travaux. Ça, like, this is the land that we're going to be on. Ça, c'est le monde on va travailler avec. Faire cette huge trip out to Cape Breton vraiment, vraiment tôt dans notre projet, je pense qu'il a complètement changé la façon qu'on a pu travailler avec Escusoni. Et pour commencer ce projet, et vraiment, like, small little building blocks de construire cette relation à fur et à mesure que nous faisons le travail.
Oui, en fait, je me sens que j'ai vraiment reçu beaucoup d'apprentissage de la communauté. Ils étaient la fondation du projet, le guide du projet. Et puis, ils nous ont accueillis vraiment avec des bras ouverts sur leur territoire. Donc, la communauté, ils ont détermination l'orientation de nos études, comme les questions expérimentales, la thème, ils ont déterminé la thème et voulaient examiner cette idée des endroits qui ont eu un historique de coupes blancs en comparaison avec des endroits qui n'ont pas eu dans le mémoire et dans le dossier aussi de terrain. ils ont déterminé les sites pour les tests aussi et les types de tests à effectuer. Tout ce que j'ai apporté, c'est l'idée de faire un effet cumulatif et ils avaient déjà cette idée aussi. Donc, ils étaient vraiment contents de lancer le projet. Donc, pour moi, j'ai appris une énorme quantité de choses. J'ai appris que la Terre, en fait, ça peut rencontrer son histoire, raconter son histoire, si on prend le temps de l'écouter. Et il y a plusieurs façons différentes. Donc, j'ai appris que tout se passe dans les relations. Et puis, j'ai appris que les événements historiques sont une partie importante de la compréhension de l'état de la Terre et de ses sociétés aujourd'hui. Donc, on dit souvent ça dans la société, on ne peut pas comprendre l'état ou comment la société, le système social fonctionne maintenant sans connaître le passé. Et c'est vrai aussi pour la Terre. On ne peut pas connaître nos écosystèmes d'aujourd'hui et leur fonctionnement sans connaître comment l'histoire a changé les conditions de l'histoire qui les a emmenés ici. Donc, c'est également vrai pour les humains et les écosystèmes. Donc, en plus, j'ai acquis toute une série de compétences techniques comme le prélèvement des échantillons, la cartographie STG, le traitement des échantillons, la ADN environnementale, j'avais jamais entendu parler de ça. Donc, quand est-ce que Sony m'a proposé ça, c'était un grand apprentissage pour moi. Et puis, le rôle des mycorhizes, les champignons dans le sol. J'ai appris beaucoup sur le cycle géochimique, la contamination du sol et comment on peut le mesurer. Les caractéristiques importantes de l'habitat du saumon, parce que le saumon, c'est une espèce importante au niveau culturel. Donc, on a beaucoup parlé de l'habitat du saumon dans le territoire. Donc, ça m'a intéressé beaucoup. Donc, j'ai fait encore plus de recherches sur ça. Et puis, il y a beaucoup de choses. C'est une comme ça fait partie des habitats complexes. Et je ne connaissais pas qu'est-ce que c'est un habitat complexe avant, donc j'ai appris beaucoup sur ça.
C'est vraiment intéressant parce que c'est là qu'on voit que les communautés autochtones ont leurs besoins, savent ce qu'ils veulent, les savoirs qu'ils ont besoin, puis ils ont déjà une grande base de savoir scientifique. Donc, quand on arrive, on est mieux de travailler avec eux et même pour eux parce que ils savent où ce qu'ils s'en vont, qu'est-ce qu'ils ont besoin. Donc, c'est ça, ils ne sont pas démunis, t'sais. Ils ont juste besoin de gens qui vont les aider. Le financement aussi, souvent, pour faire ce genre de recherche-là, avec tout ce qui s'est passé historiquement pour les communautés autochtones, ben, c'est ça, ils ont besoin de savoir c'est quoi les traces qui restent pour mieux comprendre ce qui s'est passé avant pour aller de l'avant maintenant. Je vois vraiment que votre projet à Anna et toi, Nicole, c'était vraiment de travailler avec les communautés, puis c'est pas un projet qui a été imposé à la communauté, donc c'est vraiment intéressant pour ça.
Oui, je me sens que, en fait, je me sens que j'ai reçu plus que j'ai donné. Mm. C'est moi qui ai appris le plus, c'est moi qui étais l'enfant dans cet parcours. C'est ça que je me sens, que j'ai beaucoup plus reçu que j'ai donné. J'espère que je peux continuer à trouver des façons que je peux contribuer et faire partie. Mais quand on pense à la science autochtone, ça a des expériences et des connaissances depuis le début du temps. Donc, si tu amènes la science occidentale, il ne faut pas qu'on oublie que la science, oui, il y a une place pour la science occidentale, mais c'est l'enfant, c'est neuf, ça vient de commencer par rapport. Donc, on ne peut pas penser que la science autochtone connaît plus, en fait, connaît beaucoup moins, parce qu'il est neuf. Donc, on a, dans le domaine de science occidentale, on a beaucoup à apprendre de science autochtone. Et j'aimerais bien qu'on change ce discours et aussi la distribution des fonds qui est plus en ligne avec cette réalité.
Puis est-ce que le programme il vous a amené peut-être à penser différemment la science? Par exemple, est-ce que votre rapport à l'environnement a été impacté?
Oui, bien sûr, bien sûr. En fait, je me sens encore plus fortement que la science environnementale et plus efficace lorsqu'elle est guidée par la science autochtone. Ça m'a fait réaliser aussi que la gérance de l'environnement, c'est un processus d'adaptation à des nouvelles connaissances et des relations. C'est vraiment un processus d'adaptation. J'ai également pris conscience de la façon dont la Terre raconte son histoire de différentes manières. Donc, c'est-à-dire à travers les carottes, les sédiments qui contiennent des données sur les événements passés, à travers des histoires orales, tout ce qui est dans l'historique oral, dans le sol même après, j'ai tombé, après qu'on a fait toutes nos données vers la fin du rapport, j'ai tombé sur une examination de régime de feu à Nouvelle-Écosse et on a trouvé beaucoup de choses dans le sol, dans les données de sol. Et puis aussi les êtres vivants, les organismes eux-mêmes, ils ont toute une historique dans leur ADN, dans leurs adaptations. Et leur tissu qui nous donne information sur cette histoire de la Terre. Et puis que les tests et les données, ils sont qu'un ensemble. Ils sont juste un ensemble des détails qui peuvent contribuer à la compréhension de l'historique du territoire, mais ils ne sont pas la seule chose.
J'aimerais savoir... Après ça, comment tu vois la suite de ton parcours?
Ça, c'est une bonne question. J'espère que je vais faire comme une présentation. On n'a pas eu le temps de faire la présentation de notre projet à la communauté. Ils ont reçu le rapport des effets cumulatifs et ils ont reçu toutes les données. Mais j'aimerais bien faire une présentation. Donc, je pense que ça va avoir lieu cet été. Et puis, comme ça, je vais pouvoir raconter et faire des connexions avec les autres membres de la communauté. Donc, j'espère que ça va continuer comme ça et qu'il y aura une place pour moi toujours de continuer à travailler avec eux. Donc, c'est ça que j'espère que ça va prendre cette voie.
Mais je te le souhaite en tout cas, parce que tu as tellement l'air passionnée par ce projet. Puis, je suis sûre qu'il y a énormément d'autres choses qui peuvent être faites avec cette communauté-là.
Pendant tout le projet en entier, les sciences traditionnelles autochtones, c'était sur le top. C'était jamais une question de l'importance des sciences occidentales. Le programme elle-même a plutôt souligné que les systèmes de connaissances autochtones peuvent appartenir et appartiennent effectivement aux sciences occidentales. Les deux travaillent ensemble. Et cela m'a montré que en intégrant davantage des voix autochtones et des sciences autochtones dans la discipline des sciences, nous pouvons apporter des changements pour des générations futures. Toutes nos recherches appartiennent à Eskizoni. Tout l'argent qu'on a reçu pour le projet, c'est tout de retourner dans la communauté. Et ça, c'était l'aspect le plus unique de le programme de CNews. C'était une façon complètement nouvelle de travailler. Sans la communauté, ce projet ne pourrait jamais être le même succès qu'on a effectué et ne pouvait jamais arriver au point qu'on a pu arriver pendant 8 mois. Nous avons utilisé les sciences autochtones pour remplir les demandes des sciences occidentales. On va utiliser les histoires, les traditions, les discussions qu'on a eues avec les communautés ou communautés spécifiquement Eskizoni pour informer comment on va traduire cela dans les manières des sciences occidentales. Donc, quelque chose comme la politique de centralisation, ça, c'était une histoire dans la communauté. L'homme blanc est venu, ils ont « they chopped our trees », ils nous ont laissés avec rien. Mais qu'est-ce que ça fait à notre communauté près de 100 ans après? Les arbres n'étaient pas là pour filtrer la pluie, pour prendre tous les toxines dans le sol. Qu'est-ce qui arrive quand on enlève tous ces arbres? Qu'est-ce que ça fait les espèces qui habitent là? Une des grandes conversations qu'on a eues avec la communauté, c'est l'importance du CMN. Pour les communautés Mi'kmaq, ce poisson est tellement important pour non seulement la nourriture, mais aussi dans un aspect spirituel. Mais pour les dernières, je pense, 15 années, ils ont une réduction en population de saumon. So, une de nos questions de recherche, c'est pourquoi il n'y a plus de saumon? Comment est-ce qu'on peut ramener ça à la communauté? Mais on a lu ce rapport que les taux d'aluminium élevés dans l'eau pourraient affecter l'habitat pour le saumon à reproduire et pour revenir. Une des choses qu'on a fait lors de nos échantillons de l'eau, c'était qu'on prend le pH, on prend la température, on regardait le taux de métaux pour le saumon. L'eau à Nouvelle-Écosse a en général un taux d'aluminium plus élevé du reste, comme comparativement au reste du Canada. Mais quand on a eu nos résultats, on a comparé nos résultats au standard national. The Homsabook River, où on a fait nos échantillons, on a pu voir qu'il y avait des taux d'aluminium plus de 10 % plus hauts que les standards canadiens. C'est juste à regarder à tous les points qui pourraient affecter nos résultats, mais aussi de trouver une solution.
Puis justement, quelle était la place des sciences traditionnelles autochtones dans votre projet? Puis comment vous avez fait pour allier les sciences occidentales à celles plus traditionnelles autochtones?
D'abord, je ne voulais pas être trop fixée avant de commencer le projet. Je ne voulais pas être trop fixée sur mes propres idées parce que je voulais suivre la science autochtone. C'était ça que je voulais. Je vois maintenant qu'on a fait le parcours, que j'ai fait beaucoup d'erreurs dedans. J'ai une liste de choses que j'ai écrites que je vais faire différemment, mieux la prochaine fois. Mais la science autochtone a posé les questions, donc toutes les questions expérimentales, a formulé les priorités, décidé sur les types de tests qu'on va effectuer et aussi les sites de tests. Pour la science occidentale, il a généré des données à partir des tests environnementaux pour soutenir la science autochtone. Ce qu'on pourrait mieux faire, j'aurais aimé commencer plus tôt, au début. Avec le gouvernement, il y avait beaucoup de papiers à faire, des bilans de santé et tout ça. Et puis, durant ce temps, si je pourrais le refaire, j'aurais commencé plus tôt, même avant d'avoir proposé le projet au gouvernement. Puis, laisser plus de temps et d'espace à construire les relations. Notre lien avec la communauté était avec le chef de Esquassoni Fish and Wildlife, le biologiste et une coordinatrice. J'aurais aimé avoir plus de temps à développer des relations avec la communauté soi-même avant de commencer le projet. Oui, ce que j'aime, ce qu'on a fait, ce que je pense que nous avons bien fait, c'est d'assurer que la communauté a décidé sur le thème du projet, les tests, les sites et les priorités. Ça tombait bien que l'idée d'une évaluation des effets cumulatifs, parce que c'était déjà dans les idées du comité qui voulait faire ça. Donc, j'étais vraiment contente. Je ne savais pas ça avant de le proposer, mais j'étais contente que ça tombait bien là-dedans.
Tu parles de laisser plus de temps pour développer des relations avec la communauté. Est-ce que tu peux nous dire pourquoi, en quoi ça a de l'importance pour toi ou de façon générale de prendre le temps de développer une relation avec les communautés, comme tu dis?
Oui, je pense maintenant, avec cette expérience, j'ai compris que le temps a un pouvoir soi-même et tout se passe dans l'interconnexion et tout se passe dans les relations. Et il y a certaines choses qu'on ne peut pas mettre. Si on essaie de mettre une date limitée, on va rater complètement la chose. On ne va pas avoir la connaissance et on ne va pas attirer notre objectif à 100%. Oui, peut-être on va avoir un produit, mais est-ce que ce produit est vraiment dans l'image de nos intentions? Dans la science occidentale et en fait dans les systèmes occidentaux, on essaie d'organiser le temps, on essaie de structurer le temps. Et puis, je trouve qu'on manque on manque beaucoup de choses dedans. On manque, comme par exemple, le développement de des relations. C'est le temps qui détermine ça. Et on ne peut pas encadrer le temps pour essayer de le forcer à faire ce qu'on veut quand on veut le faire. Donc, mieux vaut de suivre comment ça se développe et laisse le temps nous guider. Et puis, on va avoir une compréhension plus globale. Nos intentions vont être plus profondes et notre produit va être plus sain, en harmonie avec ce qu'on veut faire. Donc, ça c'est une chose. Les dates limitées et ça a ajouté comme un stress dedans et je sais qu'il y avait beaucoup de choses manquées pour ça.
Merci Nicole de nous rappeler que ce point est très important et à prendre en compte.
Dans un contexte de sciences non occidentales, est-ce que la place des femmes en sciences était différente selon vous?
Donc, beaucoup de nos communautés, et par nos communautés, je veux dire des communautés autochtones, on suit des pratiques matrilinéales. Donc, les femmes de la communauté sont vraiment la pointe focus dans le milieu de tout. Les femmes ont la responsabilité de nous informer sur le monde, nous guident. Et je pense vraiment que les sciences autochtones placent les femmes au centre de leurs préoccupations car ils ont le plus grand lien avec Mother Earth, avec la Terre. C'était pas vraiment de regarder à les différences parce que on travaillait dans une façon qui était le plus naturelle qui venait à nous. Le sexisme dans le bout des sciences occidentales est un sujet que entre moi et Nicole, on a discuté pleinement et profondément. Il y a certainement du sexisme qui existe dans le monde des sciences, mais le programme CNews elle-même visait à faire ces changements-là et mettre en vedette les voix féminines. Et ce qui a été vraiment, après mon expérience, qui était un grand succès, notre équipe à l'interne, nos mentors, les coordinatrices, c'était toutes des femmes. Moi, je n'ai jamais venu d'un lieu des sciences. So, pour moi, c'est mon début dans ce monde. Right? C'était ma première impression. On est vraiment reconnaissant qu'on n'a pas eu cette expérience, qu'on était traités différents en tant que femmes. C'était vraiment nous au centre de ce vraiment cool projet qui... Non, c'était un environnement vraiment ouvert et acceptant. On était vraiment chanceuses avec cette partie-là.
Oui, encore, je vais juste parler de mon expérience personnelle parce que je viens répondre à la question. Je pense qu'il faut quelqu'un qui fait partie de la culture, qui est né et grandi dedans. De ce que mes expériences personnelles et ce que j'ai entendu, ce que j'ai appris, c'est que les nations mi'kmaq traditionnelles sont des matriarches. Donc, la place de guide, c'est vraiment féminine. Je l'ai ressenti dans la manière vraiment positive en termes d'être une femme scientifique qui prend des décisions, qui est vue, d'être vue tant que scientifique, d'être entendue et de se sentir respectée. Donc, dans la façon de faire la science, une façon féminine de faire la science, comme je l'ai dit avant, qui examine les interconnexions. Je pense que, en effet, pour regarder les interconnexions sociales, et puis cet outil, ça a une place en science aussi. Donc, je me sentais vraiment bien accueillie dedans. Aussi, on avait deux guides ou mentors à la Ressources naturelles du Canada, Merritt Heidman et Jessica Coulson. Ils étaient comme des experts des effets cumulatifs et puis ils sont tous les deux des femmes qui ont avancé dans leur carrière scientifique. Et puis, ils nous ont donné beaucoup aussi, elle nous a donné beaucoup sur beaucoup de support pour notre projet aussi. Donc, ça a beaucoup aidé.
Ben moi, ça me touche beaucoup ce que tu dis, l'importance d'être vue en tant que femme scientifique. C'est vrai que c'est très important.
Puis pour finir, est-ce qu'il y a une femme qui vous inspire particulièrement dans votre domaine?
Oui, c'est Wangari Maathai. Elle vient du Kenya. Je ne sais pas si vous avez entendu parler, mais elle vient du Kenya. J'ai lu tous ses livres, tous ses articles. Elle était vraiment avant-garde. C'était la première personne mondiale qui a gagné le prix Nobel pour la paix en environnement. Donc, elle a vraiment risqué sa vie pour protéger son environnement et puis elle a continué la lutte tout le long de sa vie, en fait. Donc, s'il y a une femme qui m'a inspirée, c'est elle.
Ça a vraiment l'air d'être une femme inspirante, donc c'est sûr qu'on va aller regarder qui c'était. Moi, je ne connaissais pas cette femme-là, mais ça m'intéresse d'en savoir plus.
Vraiment, quelqu'un qui m'inspire beaucoup, c'est Nicole. Une autre personne qui continue à m'inspirer tout le temps, c'est mon mentor de recherche, Dr. Lisa Binkley. Elle m'a vraiment appris de repousser mes limites, les limites de ma recherche et de m'ouvrir les yeux sur des nouveaux horizons, même de recherche, d'apprentissage et même de compréhension, de juste écouter avant que je fais des décisions. Je serais éternellement reconnaissante d'avoir travaillé avec des femmes aussi résilientes, intelligentes et dans le fond, juste des êtres humains absolument incroyables. Tous les deux ont vraiment changé la manière que je vis le monde, que je vois le monde.
C'est beau ce que tu dis. On voit que ta relation avec Nicole était très belle, très saine. C'est vraiment... vous êtes chanceuse d'être tombées l'une sur l'autre pour ce projet-là, en tout cas. Puis ça se transparaît dans vos discussions.
Ben merci de nous avoir parlé de votre projet avec la communauté Escassoni. Et merci d'avoir accepté de faire l'entrevue en français. Je voudrais aussi remercier la communauté Escassoni qui a accepté qu'on parle du projet qui a été développé par eux.
Merci beaucoup. C'était vraiment un podcast là, où j'ai eu des frissons. Puis la collaboration qui existait, ça me faisait chaud au cœur d'entendre parler de ça.
C'était vraiment un plaisir pour moi. Merci pour m'inviter.
Merci d'avoir participé au balado. Merci pour tous ces échanges.
Merci.
Puis Léa, qu'est-ce que tu retiens de cette belle entrevue?
Ce que je retiens d'abord, c'est les carottes qui ont été faites pendant le projet. Donc, le côté biologique de découvrir quelles espèces étaient présentes au fil du temps, mais aussi un côté historique de retracer quand est-ce que les forêts ont été rasées. Puis c'est un côté qui semblait être très important pour la communauté, de montrer qu'il y avait eu ces événements-là au cours de l'histoire. Puis un côté aussi de protection de l'environnement. Donc, c'est un projet très multidisciplinaire dans ces résultats. J'ai quand même aimé ça.
Et ce que je retiens aussi, c'est l'admiration que Anna a envers Nicole qui transparaît beaucoup dans le balado. Donc, on a vu que Nicole, on dirait que ça a vraiment été un modèle de scientifique pour Anna. Fait que moi, j'ai trouvé que c'était beau comme de voir cette influence-là. Et ça montrait aussi que le programme, il permettait de créer des relations entre les deux jumelés, en plus des relations avec la communauté. Pour moi, ça me fait penser un peu comme à un aspect de réconciliation. Je pense que c'était ça que le programme recherchait.
Et ensuite, ce qui m'a beaucoup touchée, c'est ce que Nicole disait sur la place des femmes scientifiques dans la communauté. Moi, je suis biologiste, puis je suis une personne lue comme femme. Donc, le fait qu'elle exprime, le fait d'être une femme scientifique qui est vue pour ses idées, puis pour la façon dont elle voit la science, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup touchée. Toi, Joël, qu'est-ce qui t'a marqué?
Un peu comme toi, par rapport aux données qui étaient retirées de la Terre. Donc, on sait que la Terre raconte une histoire, mais finalement, comme Nicole l'a dit si bien, les données qu'on récolte dans la Terre ne sont que des détails qui complètent une histoire orale, finalement, qu'on a toujours connue, en tout cas dans les communautés autochtones. Donc ça, cette partie-là, je trouvais ça beau, venir appuyer une histoire orale connue avec des données, mais qui sont pas qui serait pas nécessaire, dans le fond, parce qu'on connaît déjà cette histoire-là, ça vient juste la préciser. Donc, je trouvais ça beau. Ce que je retiens aussi de ce balado, c'est que dans l'histoire, les relations entre gouvernement et communautés autochtones n'ont pas toujours été très positives, on s'entend, mais qu'on voit les efforts qui sont déployés. Le gouvernement emploie des gens issus de communautés autochtones, puis ça fonctionne bien, en tout cas à travers ce programme-là. Puis c'est facilité, entre autres, par le fait que toutes les données vont appartenir à la communauté. C'est facilité par le fait qu'il y a des relations qui sont construites à travers le programme. Donc ça, je trouve ça très intéressant, là, dans le but de la réconciliation également. Puis aussi, tout ce qui est de laisser plus de temps pour développer des relations avec la communauté quand on va faire des projets auprès d'elle. Je trouve ça important qu'on en parle parce que le gouvernement, les fonds de recherche, de subventions, on est souvent pressé dans le temps pour faire nos projets. Puis c'est pas trop comme ça que ça fonctionne avec les communautés finalement. T'sais, les relations, établir des relations, ça prend du temps. Puis comme elle disait, bien, ça fait en sorte que nos projets sont peut-être pas aussi profonds qu'on le voudrait finalement. On est peut-être moins satisfait du rendu. C'est plus stressant. Donc, c'est ça peut-être qu'il faudrait éventuellement penser au gouvernement puis aux organismes subventionnaires là, de comment bien soutenir les recherches qui se font avec les communautés autochtones, tout ce qui est en lien avec le temps finalement, les échéances, etc. Comment repenser ça?
En laissant le temps, c'est là aussi qu'il y a vraiment un partage d'apprentissage. Donc, c'est sûr que si c'est pressé, les connaissances autochtones ne vont pas forcément être partagées pour bonifier le projet. Puis, comme tu disais aussi tantôt, l'histoire orale aide et appuie les résultats qui ont été trouvés. Même, c'était comme un peu la base du projet. Donc, c'est ça. C'est vrai que c'est très important de prendre le temps de bâtir nos relations avec les communautés. Donc, on espère que le balado vous a aussi plu qu'à nous. Et donc, on vous remercie d'avoir écouté notre saison 2 de Communiquer au féminin. Et on vous dit à bientôt pour une prochaine saison.